À une époque fort fort lointaine, on ne connaissait pas grand-chose au corps humain, à la nature et aux phénomènes qui y sont liés comme les tempêtes, les maladies et la mort. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, les sorciers et sorcières étaient donc considérés comme des devins et des guérisseuses indispensables pour protéger les villages. Fin du XVIe, on assiste à un tournant. Les famines et épidémies à répétition, couplées à la volonté de l'Église de régner en maître sur l'Europe, sont un terreau propice à l'apparition d'un nouveau texte de loi. En très bref, en 1592, Philippe II fait paraître son édit qui criminalise les sorciers et les sorcières. Ces victimes de la société sont donc pointées du doigt par des rumeurs et inculpées dans des procès de sorcellerie totalement arbitraires. Et malheureusement, les sentences sont irrévocables. En Wallonie, elles étaient d'abord étranglées, puis brûlées. Et pour limiter la diffusion de la marque du diable, dixit l'époque, toutes les affaires personnelles de la sorcière, ainsi que les pièces du dossier, étaient brûlées avec. Ce qui explique donc que les sources et preuves de ces jugements sont très rares. Mais, dans le matrimoine de Chaumont, on a des traces de deux cas de procès en sorcellerie. Il était une fois les sorcières de Chaumont. Je préfère vous prévenir que certains faits relatés peuvent être difficiles à entendre pour certaines oreilles.
La première, en 1597, on sait qu'il y a eu un procès en sorcellerie contre Stephena Nar Marie, confondue et condamnée à être exécutée par pendaison et son corps brûlé sur le bûcher le 21 août 1597. Là, c'est tout ce qu'on sait à son sujet.
Et puis, il y a un cas qui est davantage documenté. C'est le procès de 1614 qui a vu trois personnes faire l'objet d'une condamnation de la part donc des autorités locales. Et donc, ces trois personnes sont Johanne Gillard, Catherine Aquedot et un homme, François Feck. Dans le cas de l'homme, il y a une mention de la raison pour laquelle il a été arrêté. Il aurait été serveur de vin au sabbat, ces sortes de messes inversées dont on n'a aucun témoignage direct, bien entendu. Tout ça est connu par le volet de la répression. Donc le sabbat est plutôt un fantasme en réalité des juges plutôt qu'une réalité objective. Alors lui n'a pas survécu à son temps de détention, il est mort en prison. Par contre, Johanne Gillard et Catherine Aquedot feront l'objet d'un procès et d'une exécution, toutes deux étranglées et ensuite brûlées. Mais le cas de Johanne Gillard est plus intéressant parce que lors de son exécution, par strangulation, le bourreau a cassé la corde. Et donc, ça a ému l'assemblée qui assistait à l'exécution parce qu'on a pensé que peut-être le malin, le diable, Satan, venait en aide à sa protégée. Mais ensuite, elle a malheureusement été bel et bien exécutée. Cependant, elle s'est repentie. Elle a demandé à être enterrée en terre chrétienne, ce que le bailli lui a accordé.
Le bailli, c'était celui qui remplaçait le seigneur, si on veut, le bailli et les échevins. Mais il lui a accordé cette grâce d'être inhumée en terre sainte, sans l'accord explicite du curé, qui était absent le jour de l'exécution. Ça fait pas mal d'histoires. Le curé de Torrent-Bellébéguine, doyen rural au quartier de Jodogne, dont dépendait la paroisse, fera citer le bailli et le curé pour offense commise de ne pas avoir inhumé le corps de Johanne en terre profane. La réponse de Monseigneur de l'abbaye de Bonne-Espérance, parce que Chaumont, à cette époque-là, dépendait de l'abbaye de Bonne-Espérance pendant une certaine période. Et fut que l'Église, dans sa grande le Monseigneur de l'abbaye de Bonne-Espérance, dit que l'Église, dans sa grande miséricorde, se doit d'accepter d'un repenti de lui accorder la Terre Sainte sans aucune offense. Ce fut un cas exceptionnel, parce que selon une tradition issue du Moyen-Âge, les cadavres des méchants souillaient l'Église et le cimetière, risquant du même coup de contaminer les dépouilles avoisinantes. Ils étaient brûlés en général, je ne sais pas ce qu'on faisait de leurs cendres ni rien, mais en tout cas, pour ne pas contaminer les autres morts du cimetière, ils étaient évacués. On ne les mettait pas dans le cimetière, ce qui n'a pas été le cas de la dernière. Il n'est pas clair que son corps fut incinéré ou non. J'ai trouvé différentes informations comme quoi il est incinéré, d'autres non. Mais à cette époque, le salut de l'âme est la condition sine qua non pour une éventuelle rémission des péchés au jour du jugement dernier, dépendait de l'inhumation dans une terre consacrée par l'Église. Et c'est ce qui fait que, ici, quelqu'un l'a défendu, quelque part, le curé l'a défendu, sinon elle aurait été, elle n'aurait pas été. Et elle est enterrée autour de l'église de Chaumont. Et ce cimetière existe toujours, on ne sait pas où, évidemment.
Elle est effectivement, normalement, près de l'église de Chaumont. Alors, c'est bien la seigneurie de Chaumont qui est en cause et non pas Gistoux. En fait, il y a les deux localités, hein, Chaumont, le Mont Chauve, c'est le calvaire, en quelque sorte, d'un côté, qui est ce plateau, et puis Gistoux, c'est plutôt les sablonnières le long des cours d'eau. Mais donc, c'est bien la seigneurie de Chaumont qui est en cause.
Apparemment, c'était toujours sur un lieu élevé. On ne sait pas où. On suppose qu'elles ont été jugées dans le contexte du château et de qui est maintenant à l'endroit d'église et de la chapelle. Mais pour leur exécution, en général, les exécutions se faisaient à un lieu élevé. Or, à Chaumont, il y a plusieurs lieux élevés. Il y a la chapelle du Dieu aimant, il y a encore d'autres endroits. Mais je ne peux pas vous dire où ça a été. J'imagine que c'était pour que ça se voit mieux.
Avis à la population. Aujourd'hui, sur la place publique, vous assisterez au procès de la femme Verly, accusée de sorcellerie. Il y aura peut-être du sang, des tripes et des boyaux. Qu'on se le dise!
La présomption d'innocence n'existe pas. Et là, je trouve que c'est vraiment grave, quoi. Et la justice était expéditive, en général. Les procès se déroulaient en trois phases. D'abord, le défilé des témoins se basant sur la rumeur. Secondement, l'instruction pour aboutir à l'aveu sous l'effet de la torture. On recherche notamment la marque du diable. Ça pouvait être une tâche quelconque, mais également en piquant d'aiguille le corps dénudé des personnes. Parce qu'ils estimaient que si un espace était insensible à la douleur et ne saignait pas, c'était la preuve d'un pacte avec Satan arrivé lors d'un sabbat nocturne. Et la troisième étape, c'était le bûcher, le feu purificateur qui éradiqua le mal. Et là, c'était en général comme ça que les procès se passaient. Donc on peut imaginer qu'à Chaumont, ça s'est passé de la même manière, quoi.
On a les documents par le cartulaire de l'abbaye de Bonne-Espérance, dont dépendait la seigneurie de Chaumont. Bien, il y a quelques folios, quelques pages qui sont consacrées à ces procès. Donc on a les dates, on a les personnes qui participent au jugement, enfin en tout cas certaines d'entre elles. On sait que les frais du procès devaient être en partie supportés par le seigneur de Chaumont et pour une autre part par les habitants, d'où sans doute une augmentation à ce moment-là du prix de l'impôt, de la taille. Et en partie aussi, on saisissait les biens des accusés pour subvenir aux frais du procès. Mais on sait là, par exemple, que ces accusés étaient certainement très pauvres. C'était des gens indigents, de peu de moyens, et donc leurs effets personnels, leurs biens n'ont certainement pas suffi à couvrir les frais du procès, les frais du procès qui impliquaient aussi, à la fin, les frais pour un banquet qui était offert, une fois le procès terminé, aux personnes, aux juges qui avaient participé au fait de rendre la justice dans ce contexte-là. Donc, on a quelques éléments, mais pas très nombreux, en réalité, malheureusement. On a les noms, on a les dates. En ce qui concerne les trois accusés des procès de Chaumont en 1614, là, malheureusement, on a très peu d'éléments. Il peut s'agir, évidemment, de jalousie, mais on ne le sait pas. Dans bien des cas, les sorciers ou sorcières qui sont accusés le sont pour des raisons de jalousie, mais ça peut être aussi parce qu'on cherche encore une fois un bouc émissaire, on cherche une personne qui sera responsable peut-être d'une mauvaise récolte, de la mort de quelqu'un, de la mort d'un animal.
Messire Bailly, sur le tiesse de mes enfants, je dure de dire la vérité. Un jour, la femme Verly s'est disputée sur le chemin avec sa voisine pour une question de vache, je crois. Elle me la payera !» cria-t-elle. Peu après, cette même voisine vit sa vache dépérir sans raison et elle creva. Ce fut pour elle une perte terrible, sa vache était son bien unique. Peu de temps après, un mal mystérieux la frappa de douleurs terribles qui lui labourait le ventre. Un médecin venu exprès de Wavre ne put rien faire et elle en mourut. La pauvre, elle avait bien payé sa dispute avec la femme Verly.
Mais disons que c'était une époque où on recherchait des boucs émissaires. Il y a eu une diabolisation de la femme, féminisation du crime, misogynie, obsession sexuelle, peur de la castration. Ce sont les bases de la diabolisation de la femme. Mais les femmes accusatrices n'étaient pas les moins vindicatives. Et là, je veux insister, parce que fréquemment, elles assistaient au pendaison, et c'était elles parfois qui, apparemment, c'est ce que j'ai lu, qui accusaient, par jalousie peut-être aussi, parce que c'était quand même un phénomène qui jouait. Voilà, donc je crois qu'il ne faut pas accuser seulement les hommes. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de femmes qui auraient pu faire leur mea culpa à l'époque.
Alors, bien souvent, ce sont quand même des personnes marginales, hein, principalement sorcières au village. Ce sont plutôt des personnes qui vivent dans les campagnes que dans les villes. Ce sont des femmes qui sont plutôt à l'écart de la communauté, qui bien souvent pratiquent aussi la médecine par les plantes. Donc on a pu, par exemple, considérer que toute une partie de la médecine traditionnelle était passée par ces soi-disant sorcières. C'est ce que pensait Jules Michelet, qui a réhabilité à la fin du 19e siècle la figure de la sorcière, enfin, en 1862, dans son ouvrage « La sorcière ». Un ouvrage très romantique dont on ne doit pas prendre tout comme élément tout à fait sûr, mais qui a beaucoup contribué à donner de la sorcière une vision positive. Donc je disais, ce sont des femmes un peu marginales, ce sont des femmes qui sont souvent seules, soit qu'elles sont célibataires ou alors elles sont veuves. Ce sont des femmes qui, dans certains cas, n'ont pas d'enfants ou éventuellement se sont séparées de leurs enfants. Et ce sont des femmes également qui sont souvent âgées. Le mythe un peu, le stéréotype de la sorcière âgée. C'est d'ailleurs ces trois aspects qui ont amené la journaliste Mona Chollet à prendre la sorcière comme figure d'une femme forte. En fait, elle voulait réfléchir à la condition des femmes aujourd'hui par rapport justement au vieillissement, au fait de refuser d'avoir des enfants et au fait de mener une vie célibataire ou en tout cas indépendante des hommes. Ces trois aspects finalement qu'elle identifie aussi parmi les entre guillemets sorcières modernes, mais d'une manière positive cette fois-ci, étaient aussi peut-être ce qu'on reprochait historiquement, à ces femmes un peu marginales.
De nos jours, l'État n'organise plus des exécutions publiques de prétendues sorcières, mais la peine de mort pour les femmes qui veulent être libres s'est en quelque sorte privatisée. Quand l'une d'entre elles est tuée par son compagnon ou son ex-compagnon, ce qui en France se produit tous les 3 jours en moyenne, c'est souvent parce qu'elle est partie ou qu'elle a annoncé son intention de le faire. Telle Émilie Allouin, ligotée par son mari sur les rails du TGV Paris-Nantes le 12 juin 2017, jour de ses 34 ans. Et la presse traite ces meurtres avec la même trivialité déréalisante que celle avec laquelle on évoque les bûchers des sorcières. Le Parisien, 23 septembre 2017, commence par titrer « Il met le feu à sa femme et incendie l'appartement », comme si la victime était un bien meuble et comme si l'information essentielle était l'incendie de l'appartement. Le journaliste semble presque trouver cocasse la maladresse du mari. Les seuls cas où l'on accorde à un féminicide la place qu'il mérite, où l'on reconnaît sa gravité, c'est lorsque le meurtrier est noir ou arabe, mais il s'agit alors d'alimenter le racisme et non de défendre la cause des femmes.
Et il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, la sorcière est devenue un élément de valorisation. C'est un emblème, c'est un porte-étendard finalement du féminisme aujourd'hui. Il est évident que se faire taxer de sorcière dans l'Ancien Régime, ça pouvait conduire à la mort. Mais aujourd'hui, c'est repris de manière favorable par les mouvements féministes. Et au fond, on a là ce qu'on peut appeler une inversion du stigmate. Cette appellation qui était infamante et très dangereuse, qui pouvait conduire à la mort, aujourd'hui est reprise depuis les années 70, hein, depuis notamment la revue Sorcière de Xavier Gauthier. C'est devenu une figure d'une femme résistante face à un ordre qu'on peut appeler patriarcal. Et dans ce contexte-là, eh bien, on a des mouvements de sorcières aux États-Unis contre Trump ou même en France contre la politique actuelle. La sorcière devient une figure de combat contre aussi dans un contexte un peu écologiste aussi, en lien avec l'écoféminisme. Il y a une considération finalement de cette lutte au nom d'un aspect plus proche de la nature. C'est-à-dire qu'en fait, la société d'Ancien Régime, qui a condamné les femmes pour sorcellerie, a aussi dominé la nature. Et donc, on établit une sorte de connexion entre la lutte pour la réhabilitation des sorcières et la lutte écologique. Effectivement, on peut se demander comment on est sorti de cette folie collective, de cette hantise de l'Europe et de la Wallonie en particulier dans ce contexte. En fait, ça s'est produit dans le courant du XVIIe siècle. Petit à petit, il y a eu une remise en cause de ces condamnations pour sorcellerie. Certains ont dit que peut-être ces femmes éventuellement relevaient de l'asile, mais non pas du bûcher. Dans l'hypothèse où elles auraient accepté justement le fait de se considérer elles-mêmes comme sorcières. La médecine a avancé aussi, a progressé. Il y a aussi une progression de la réflexion rationnelle au XVIIe et encore plus au XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières. Mais on peut fixer en fait la fin de cette grande chasse aux sorcières aux années 1680. Et tout particulièrement, alors là, ça concerne plus le Royaume de France, mais c'est une date marquante, c'est la date de 1682, un édit qui a été promulgué par Louis XIV, écrit par Colbert, et qui décriminalise la sorcellerie. On ne considère plus le crime de sorcellerie comme un crime véritable. On a remplacé cela par le terme d'empoisonneur ou d'empoisonneuse, mais on ne croit plus, au fond, à partir de ce moment-là, à la sorcellerie. On ne croit plus que des hommes et des femmes ont réellement passé un pacte avec Satan, sont allés au sabbat et en ont reçu des sorts, une faculté de lancer des sorts et de nuire à leurs contemporains. Mais ça prend tout de même un certain temps. Je pense que pour la Wallonie, c'est tout de même la fin du XVIIe siècle qui marque la fin de cette grande vague de chasse aux sorcières, mais le phénomène se poursuit ailleurs en Europe, tout particulièrement en Suisse, en Pologne et au Portugal. Et c'est en Suisse qu'on assistera à la dernière ou quasi-dernière condamnation pour sorcellerie d'une sorcière, hein, d'une prétendue sorcière, Anna Guldid, dans le canton de Glaris, en 1782. Et ce phénomène a été bien documenté et aujourd'hui, elle a été réhabilitée à l'endroit où elle a vécu et où elle a été exécutée. Il y a maintenant un musée et elle a fait l'objet d'une réhabilitation. Et cette réhabilitation s'inscrit en fait dans une vague tout à fait considérable de réhabilitation des sorcières qui a commencé dans l'Europe du Nord, en Norvège, en Allemagne, en Suisse, en Flandre aussi, et tout récemment en Catalogne, alors là c'est vraiment en 2022, que près d'un millier d'entre elles ont été réhabilitées, et certaines rues porteront maintenant des noms de sorcières en Catalogne, et donc il y a là une réhabilitation massive et globale de ces sorcières qui sont perçues comme ayant été l'objet d'un crime de nature, d'un féminicide systémique, en fait, voilà.
Avant de m'adresser justement à la sorcellerie lors des journées du patrimoine, le thème était la femme. Or, c'est arrivé comme ça par hasard, le thème était la femme, mais ça devait se passer dans un lieu qui était reconnue, qui était patrimoniale. Et l'église de Chaumont est une église magnifique qui date du XIIe, où il s'est passé énormément de choses. Et auparavant, c'était un château sur ce lieu-là. Et là, on en connaît un peu plus sur l'histoire de Chaumont. Il y avait des vitraux avec des saintes, dont une a fait des miracles. Tu dis, m'arrêter aux saintes et les sorcières, ce serait quand même très intéressant d'associer les deux, quoi. Parce qu'après tout, les sorcières, ça aurait peut-être pu être des saintes, qui sait. C'était subjectif, tout ça. Hein. Enfin, ça, c'est très personnel comme réflexion. Hein. Et alors, c'est pour ça que dans le cadre des Journées du patrimoine, j'ai choisi ce sujet-là. Et j'étais étonnée par le nombre de personnes présentes à la conférence de Benoît de Rey, des personnes qui ont posé des questions. Vraiment, j'étais vraiment étonnée, et pas mal de gens de Chaumont-Gistoux qui étaient étonnés eux-mêmes, mais qui étaient intéressés.
Alors, dans le cas précis de Chaumont-Gistoux, je ne sais pas si on commémore de manière festive l'exécution de ces deux femmes et de cet homme, lui étant mort en prison, mais au même moment. Je ne sais pas si on commémore ça sous une forme folklorique. Par contre, ça a fait l'objet de deux publications, une de Philippe Martin dans la revue historique de Wavre, Wavrencia, et l'autre de Robert Hugues dans la revue du Cercle historique de Chaumont-Gistoux. Donc la mémoire de ces épisodes est malgré tout bien honorée, elle est bien présente dans les publications d'histoire locale.
Le Mascaret, qui est le cercle local de théâtre, avait organisé un grand spectacle sur les petites histoires de Chaumont-Gistoux. Et eux s'étaient renseignés et ils ont fait un épisode de la pièce des petites histoires de Chaumont-Gistoux était consacré aux sorcières. Ils l'ont d'ailleurs reproduit lors des Journées du patrimoine. Ils ont eu du succès. Hein. Et c'était basé sur certains faits réels, mais évidemment, ils avaient brodé...
Sergent, faites entrer l'accusé. Odette de Dion, épouse Verly. À la rumeur publique, t'accuse de sorcellerie. Tu es accusé d'avoir jeté le mauvais sort. Tu aurais pris part la nuit à des sabbats sur Albruyère de God. Tu es accusé, ô crime abominable, d'avoir invoqué le diable. Réponds. Nous t'écoutons.
Messire Bailly, je ne suis pas une sorcière. Je n'ai jamais été de mauvais sort. Je n'ai pas convoqué le diable.
Alors pourquoi les femmes ? Il faut aussi dire que ce n'était pas les femmes en tant que telles qui étaient ciblées. Elles étaient ciblées, non pas en tant que femmes, c'est ça que je veux dire, elles étaient ciblées parce que, du fait qu'elles étaient femmes, elles étaient plus sensibles à l'influence du démon. Et donc, effectivement, les femmes sont diabolisées dans ce contexte-là, mais on ne les exécute pas parce qu'elles sont des femmes, on les exécute parce qu'en tant que femmes, elles ont eu un lien privilégié avec le démon.
En fait, le fait qu'elles étaient femmes célibataires en général les obligeait évidemment à prendre des responsabilités qu'elles n'auraient probablement pas prises si elles avaient un homme qui s'occupait d'elles. Et je pense que ça peut avoir joué aussi. Les phénomènes de jalousie ont quand même joué pas mal. Est-ce que certaines femmes étaient jalouses de voir les... Ce sont toutes des réflexions que je me suis fait après avoir consulté certains écrits et tout. Est-ce que ces femmes jalouses n'étaient pas envieuses quelque part par rapport à la condition qui n'était pourtant pas facile de ces femmes, mais qui leur permettait d'être libres?
Vu que les traces de ces procès étaient peu nombreuses, les recherches pour cet épisode furent plutôt chargées. Alors d'abord, on remercie le Cercle d'Histoire de Chaumont-Gistoux avec Anne-Marie Louette et Mireille Lebeau. Merci aussi à Benoît Beyer de Ric, historien médiéviste et philosophe, pour ses connaissances autour de la sorcellerie au Moyen-Âge. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on a mis en description de cet épisode quelques-unes de ces ressources. Et on remercie aussi la compagnie du Mascaret, qui nous a fourni le texte de leur pièce de théâtre que Gaëlle a brillamment interprété. Il était une fois, nos femmes wallonnes, c'est une série de podcasts qui redonne vie à des femmes qui ont marqué et marquent l'histoire peu connue, voire oubliée, de la Wallonie. Qu'elles soient cyclistes, religieuses ou directrices d'école, ces badass d'hier et d'aujourd'hui rayonnent sur notre patrimoine wallon. Cette série sonore est une création originale du studio Ultravague, soutenue par Startinvest. À l'interview, Héloïse Rouard. À l'écriture et au montage, Cassie Enaf. Au mixage, Marius Adam. À la prise de son, Noémie Lalou et Anne-Sophie Skittekat, sans oublier Lionel Capouillet. À l'interprétation, Gaëlle Swann. Les visuels sont de Gilles Daffélé. Et la voix off, c'est moi, Jessica Riga.